Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro des Aventuriers du Pixel Perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones.
Oh, rats.
Cette semaine, nous nous retrouvons dans un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Oui, chers auditeurs et auditrices, nous filons vers le sud, le temps d'une émission, et plus précisément vers La Ciotat, filmée par Laurent Cantet dans l'atelier. Puis, à bord de notre avion à réaction, nous traverserons l'Atlantique pour survoler le Colorado des années 90 dans l'œil de Gus Van Sant, qui filme le massacre de Columbine dans Elephant. Quel rapport entre ces deux films, demanderez-vous? Le jeu vidéo, bien sûr. Dans l'atelier, Antoine, jeune homme en colère, glisse, plus par ennui que par conviction, vers l'extrême droite dangereuse et armée qui regarde des vidéos de Soral le jour et qui s'exerce au tir la nuit. Entre les deux, Antoine se baigne beaucoup dans les calanques et s'immerge tantôt dans un RPG, The Witcher, tantôt dans un MMORPG, Guild Wars 2. Déjà en 2003, Gus Van Sant filmait l'un des deux cool shooter du lycée de Columbine en train de jouer à un jeu de tir à la première personne juste avant qu'il ne passe commande d'armes sur internet. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, cette semaine, notre quête a pour objet l'accusation faite aux jeux vidéo de pousser le joueur à convertir la violence virtuelle en violence réelle.
You know, and that game makes me sick to my stomach. It makes me sick to my stomach. We have forgotten that we need to be accountable and responsible for each other. And that we need to be aware of what's going on around us. And that starts with parenting in the home, from our kids being a very, very young age and understanding what is going on at home. And making sure that our kids are empathetic and sympathetic toward others. And that does include these types of video games, that we don't hurt others because we know how that feels and we don't reach out and do that type of thing to other people. And if that includes video games, then that means that kids don't play that type of video game.
Oui, c'est une accusation qui a la vie dure dans le monde vidéoludique. L'accusation selon laquelle, évidemment, parce qu'on tue des gens dans un jeu vidéo, on va forcément aller tuer des gens dans la rue. C'est une accusation dont traite assez bien le film L'Atelier à un moment particulier. Alors, il traite d'autres problèmes du jeu vidéo, c'est-à-dire l'évasion dans un autre monde où on ne sort plus avec le MMO, mais en fait, finalement, non. C'est ce que L'Atelier montre. Et aussi, à un moment, une référence plus discrète est faite au jeu vidéo au niveau de la violence. C'est le moment, justement, donc, où ils vont s'entraîner au tir. Et il y en a un d'eux qui dit tu peux retenir ta respiration comme dans Metal Gear Solid. Alors pour ceux qui ne seraient pas adeptes du jeu Metal Gear Solid, donc c'est un jeu japonais sorti à la fin des années 90 où vous incarnez Solid Snake, un soldat qui a pour mission qui est un soldat retraité qu'on rappelle pour une mission à haut risque très périlleuse en fait parce qu'une plateforme pétrolière a été prise en otage par un groupe armé de super soldats en gros. Et ce qu'on ne dit pas aux populations, c'est que cette plateforme pétrolière abrite plusieurs ogives nucléaires, des têtes de missiles qui peuvent être lancées à tout moment par le groupe terroriste. Donc c'est à Solid Snake d'aller faire le ménage là-bas.
Ça va faire un bail, Snake. Colonel, évidemment j'aurais dû m'en douter. Quel accueil pour un vieux pote de guerre, Snake. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai simplement invité pour qu'on se parle.
Invité? Tu m'invites avec des soldats armés jusqu'aux dents maintenant?
Toutes mes excuses s'ils ont été un peu agressifs. Mais nous avons un gros problème et toi seul peux le résoudre.
Colonel, j'ai démissionné de Foxhound. Tu n'es plus mon commandant et je n'ai plus d'ordre à recevoir ni de toi ni de personne.
Donc il lui dit hein, retenir sa respiration comme dans Metal Gear Solid. On a l'impression au premier abord que c'est le jeu qui apprend à tuer. C'est le jeu qui apprend à devenir un soldat dans la bouche du personnage et que le joueur donc va devenir un genre de d'être tueur de sang-froid comme Solid Snake dans la bouche du personnage. Mais en s'intéressant un peu au jeu, on se rend compte que c'est surtout une réduction qui, selon moi, est voulue par Robert Campillo, du coup le scénariste du film, qui est lui-même, joueur de jeux vidéo. Parce qu'il réduit le jeu donc à l'aspect guerrier, à l'aspect violent, et une violence qui est froide et calculatrice, celle d'un soldat qui doit désinguer des cibles sans vraiment prendre compte, la réalité de tout ça. Mais ce qu'il oublie, le joueur du jeu, c'est que Solid Snake, c'est un soldat dans le jeu, c'est un soldat brisé, c'est un soldat retraité qui ne voulait pas faire la mission au début, c'est un soldat qui est pris dans une opération qui, en pleine guerre froide, hein, le jeu se passe dans une guerre froide un peu dystopique. Et donc le jeu pose des questions au-delà de fournir un simple défouloir de violence. Il pose les questions du pacifisme, le jeu se termine de l'antinucléaire. Le jeu se termine quand même sur des blocs de texte disant à l'époque combien il restait d'ogives nucléaires dans le monde, et puis manipulation politique aussi de Solid Snake, qui finalement n'est qu'un pion et non pas un héros militaire comme on pourrait le penser, pas du tout ce héros dont parle le personnage. Donc le jeu, c'est vraiment en fait le souci de la déformation. C'est pas le jeu qui vient créer une déformation, c'est le joueur en fait qui plaque ses propres grilles d'interprétation sur le jeu.
Monsieur Garrison, le mec qui a tué John Lennon, il a pas dit que c'était à cause de ce bouquin ?
Si, apparemment l'assassin de John Lennon aurait été inspiré par l'attrape-cœur. Mais c'était surtout un con.
Comment quelqu'un peut trouver ce livre obscène ou dangereux ?
Tu es John Lennon. Tu es John Lennon. Tu es John Lennon. Tu es John Lennon.
D'ailleurs, dans l'atelier, la scène d'ouverture est quand même une capture d'écran vidéo d'un jeu, parce qu'il faut le rappeler, je pense. Et donc, tu m'avais dit que le jeu, c'était The Witcher.
Oui, The Witcher 3, le dernier qui est sorti.
The Witcher 3, le dernier qui est sorti. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que cette capture d'écran, donc vidéo, on ne sait pas qui joue. C'est le jeu est pris comme séquence en tant que tel, un plan séquence en tant que tel. Et finalement, il est monté juste après avec un plan d'Antoine en train de flotter dans l'eau bleue des Calanques. Et en fait, on comprend qu'entre ces deux plans, tout est dit sur l'identité d'Antoine. C'est avant tout une errance, l'histoire d'une errance, d'une grande solitude et d'une espèce de goût de l'absurdité quand il tire vers le soleil. Et en fait, on s'aperçoit que c'est plus quelque chose comme un moment hors du récit et un aperçu de son intériorité, et qui est une intériorité qui n'est pas nécessairement conflictuelle et que... Enfin, ça rejoint totalement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il plaque sa solitude sur le jeu, dans sa pratique du jeu. Si on suppose que c'est Antoine qui joue, on va se dire que c'est un motif de l'errance d'Antoine qui est le même, que ce soit dans les Calanques, que ce soit dans le virtuel. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis sur l'idée du jeu qui est investi par la grille de lecture du joueur. Et puis le jeu peut être vu comme une espèce de continuité. Enfin, c'est ce que disait Laurent Canté au moment de son intervention au Cinéma Comédia. Enfin, il disait que lorsqu'il avait choisi de mettre en scène Antoine en train de jouer à Guild Wars 2, donc qui est un jeu, un MMORPG, donc c'est-à-dire un jeu en réseau sur Internet. Et en fait, cette séquence est mise en parallèle avec la voix off d'une des membres de l'atelier qui lit un texte sur l'action syndicale des grévistes du chantier naval de La Ciotat. Et du coup, en fait, on comprend que l'action des joueurs dans le jeu qui vont mettre en place une stratégie alors la stratégie qui est une stratégie militaire contre un dragon, mais qui la stratégie et le rapport de force vont être, enfin les deux rapports de force vont être totalement mis en parallèle dans une espèce de stratégie de groupe vis-à-vis d'une espèce de chose assez monumentale, assez colossale à combattre. Enfin, d'ailleurs le chantier naval et les grandes structures métalliques monumentales sont filmées comme des espèces de monstres d'acier pendant tout le film. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie relation entre l'action syndicale et l'action collective dans le jeu, qui montre que c'est une espèce de direction des forces et d'une certaine forme de violence, peut-être, qui est un exutoire et qui est pour produire quelque chose de constructif, quoi.
C'est encore une fois, c'est pas une manière d'échapper au monde, au contraire. Une réunion syndicale, c'est pas une manière de c'est pas une manière de totalement sortir du monde, c'est tout le contraire, c'est une manière de planifier une action sur le monde. Le jeu vidéo, là, on peut imaginer que c'est la même chose.
Parce que ce qui est vrai, c'est que dans le film, à chaque fois qu'il essaye de faire une action de groupe, une activité de groupe avec ses amis physiques, entre guillemets, c'est-à-dire son cousin et ses amis, soit c'est la soirée où il va totalement se détacher d'eux et finir dans la chambre à dormir avec l'enfant, parce que voilà, cette espèce de... de musique extrêmement prenante.
Il ne se sent pas à sa place. Vraiment pas à sa place.
Ou alors cette nuit où ils vont s'entraîner au tir, enfin, observer le camp de gitans, puis ensuite s'entraîner au tir dans la colline. Finalement, il finit par se mettre tout nu et plonger dans l'eau et retrouver sa solitude, c'est-à-dire la même qu'il cherche sans cesse dans les calanques.
Donc, c'est ça
le seul moment où il fait quelque chose en groupe de construit, etc., c'est le moment du jeu, finalement.
Oui, c'est vrai. Et c'est ce jeu qui va construire quelque chose au lieu de déconstruire. Il va construire quelque chose pour lui qui va pas l'aider, hein, mais quelque chose qui se trouve dans le monde et qui va pas le pousser vers des choses totalement...
mortifères.
Pardon ?
Mortifères.
Oui, mortifères, exactement.
Alors c'est à nous, nous nationaux, d'incarner le génie français. On lutte pour une culture qui aujourd'hui est mise en danger par ce métissage galopant.
Ça, on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique.
Oh ta gueule. Il ne pensait plus. Il a ouvert son sac, a sorti une calache, et avant que personne ne puisse réagir, il a tiré. La vue du sang semblait même lui donner le courage de continuer.
Donc oui, Laurent Canté, dans le débat, il prend une position assez claire, nette et précise, c'est-à-dire que, comme il le disait au moment de son intervention, il est totalement contre l'idée que le jeu vidéo puisse être instigateur de violence. Enfin, en tout cas, qu'il puisse tout seul, ex nihilo, pousser le joueur à la violence.
C'est juste que le jeu ne crée pas la névrose, mais que ça va être un exutoire à la névrose et peut-être un terrain fertile à cette névrose-là.
Voilà, et... Alors, il y a un autre film qui traite de ça, dont j'ai parlé en introduction, donc Éléphante de Gus Van Sant, où là, la position est peut-être un peu plus ambiguë et a donné lieu à énormément de commentaires. Parce que déjà, donc dans ce film, on suit un certain nombre de lycéens de Columbine pendant la matinée qui précède le massacre, et on les suit tout au long de leur déplacement jusqu'au point où ils vont être abattus. Et ils sont tous filmés de dos, un petit peu comme soit quelqu'un qui va être abattu dans le jeu vidéo, soit comme un personnage que l'on incarne dans le jeu vidéo. Et donc du coup, ça a donné lieu à énormément de commentaires, et également la référence dans le titre au film d'Alan Clarke qui s'appelle aussi Elephant, où ce sont simplement l'histoire de gens qui tuent sans raison dans la rue. Donc il y a eu beaucoup de tentatives d'interprétation, etc. Et ces tentatives d'interprétation trouvent leur point d'acmé finalement dans la scène où on voit l'un des deux school shooters en train de jouer à un jeu vidéo. Alors c'est un jeu vidéo à la première personne qui a été surnommé Jerry Count, et donc c'est un jeu de tir où on doit manifestement abattre deux personnes, deux jeunes hommes, dans un désert totalement blanc. Ils réapparaissent, ils les abattent, ils réapparaissent, ils les abattent. Et en fait, on s'aperçoit que cette scène, le gameplay est entièrement issu du film précédent de Gus Van Sant qui s'appelle Jerry. Alors dans Jerry, en fait, ce sont deux amis qui se perdent dans le désert, tous deux s'appellent Jerry, et bon, je vais spoiler, à la fin l'un des deux finit par tuer l'autre Jerry et finit par trouver une échappatoire à ce désert, et on comprend qu'en réalité l'autre Jerry était plus ou moins une projection de son esprit à travers tout un tas d'autres indices dans le film. Et en fait, ce film est vraiment l'image de la projection mentale, c'est vraiment l'image de l'intériorité, c'est vraiment le film où le désert, plus ils vont s'enfoncer dans le désert, plus le désert va devenir une espèce d'univers mental qui se dépouille au fur et à mesure. Enfin, et ce qui donne un gameplay extrêmement dépouillé, limite absurde, puisque ce film joue quand même beaucoup sur l'absurdité, ou en tout cas une forme de surréalisme. Et en fait, ce qui a du coup posé le débat, c'est que est-ce que Gus Van Sant est pour l'idée que le jeu vidéo pousse à tuer sans raison, puisque des gens qui eux-mêmes errent sans raison, ou est-ce qu'au contraire, on pourrait interpréter, et moi il me semble que c'est plutôt ça, est-ce qu'on pourrait pas interpréter cette scène d'errance dans le désert comme déjà un théâtre absurde à la base, comme deux espèces de personnes qui cherchent Godot sans fin dans le désert, et que en fait ce gameplay totalement dépouillé, c'est la vision qu'a le school shooter du jeu en lui-même. Il va simplement voir le jeu comme un endroit où il tue sans raison des gens qui sont là pour aucune raison. Et en fait, il me semble que le jeu, à ce moment-là, on peut le considérer comme une espèce de surface de projection de l'univers mental du tueur, en fait. Cette espèce de grande toile blanche, de grand désert blanc, où, en fait, ce qu'il ne retient, ce n'est que le sang comme couleur, le sang et son arme. Donc voilà, moi selon moi, vraiment, Gus Van Sant n'incrimine pas le jeu et il en fait comme une espèce, un peu comme finalement Laurent Canté pour The Witcher 3, il en fait une espèce de lieu de la révélation, de l'univers psychique du joueur, quoi. Plus que... C'est pas un jeu qui se veut réaliste, c'est vraiment presque une image tant à ce niveau-là.
C'est d'autant plus frappant quand on se dit que... Quand on voit les images du jeu, du coup, dans le film, on pense à aucun jeu existant de cette absurdité-là. C'est-à-dire, il y a des jeux comme ça où on se balade juste en tirant sur des êtres humains innocents ou pas innocents. Et il y a plein de jeux comme ça et qui tendent vers l'absurde. Hein. Par exemple, Postal, qui est un jeu qui est extrêmement connu pour son extrême violence et une violence qui part jusque dans l'absurde, mais quand même une violence assez crue et assez marquée. Même là, il y a quand même un minimum de
game design.
Ouais, de game design, alors que là, c'est le vide. Enfin, dans le jeu, c'est
vide. C'est exactement le même désert blanc que dans
le jeu. Et du coup, il n'y a plus de référentiel. Et c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est-à-dire que le joueur peut plaquer. Ce qu'on disait juste avant sur le joueur qui plaque son interprétation à Metal Gear Solid, là, c'est pire. C'est-à-dire que le meurtre devient l'unique interprétation du joueur, en fait.
Oui, c'est ça. Et le joueur, on dirait presque qu'il est finalement le prolongement de l'arme, plus que finalement un joueur à la première personne qui s'incarne dans le jeu. Enfin,
Et du coup,
il n'y a plus que l'acte de tuer quoi qui subsiste.
Oui, et ça montre. Enfin, c'est une interprétation aussi possible le fait que ce soit juste sa projection du jeu et qu'en fait il joue à un autre jeu et que lui il se projette là-dessus et qu'il y joue mais il n'y pense plus parce que il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose qui plaque peut-être une certaine misanthropie ou des problèmes plus personnels qui lui sont totalement propres. Qui plaquent sur le jeu et qui font que lui va réagir comme ça à un jeu de tir, mais d'autres vont pas réagir comme ça, ils vont garder tout le contexte.
Enfin, pour moi, c'est vraiment l'image mentale qu'il a du jeu, mais c'est pas le vrai jeu. D'ailleurs, quand on a cherché sur internet les jeux qui avaient été incriminés au moment de la tuerie de Columbine, on s'aperçoit que c'est des jeux avec des couleurs quand même relativement pop
relativement... et puis toujours contextualisé. Enfin,
toujours une histoire, un contexte.
Il y a un autre qui est placé en ennemi, en exutoire. Là, il n'y a personne. Enfin, les deux jeux qui ont été le plus incriminés, c'est Doom dans les années 90 et Wolfenstein 3D, le premier qui est sorti, je ne sais plus trop quand, un peu avant, je crois. Et ces deux jeux-là, soit dans le premier, vous tuez des extraterrestres monstrueux, soit dans le deuxième, vous tuez des nazis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un ennemi. Là, dans le jeu qu'il y a dans ce film, c'est-à-dire que on tue des innocents et des gens complètement dépersonnalisés aussi.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans Jerry, ce sont vraiment des personnages qui, ils ont le même prénom, ils n'ont pas d'individualité propre, puisqu'en fait, c'est finalement plus ou moins une seule et même personne. Donc, on se retrouve avec des espèces de figures désincarnées comme ça, et c'est simplement l'acte de tuer qui subsiste. Il est clair que on peut estimer qu'il y a une ivresse du meurtre qui préexiste au jeu et qui s'incarne dans le jeu. Mais il est vrai qu'il, comme pour le cinéma, faut peut-être penser une éthique du jeu vidéo. Le jeu vidéo est donc un art qui place le spectateur comme acteur de cet art même. Et du coup, il me semble qu'il faut réfléchir au choix de mise en scène et au choix artistique. C'est comme au cinéma, c'est comme l'abjection que dénonçait Rivette dans la manière de représenter la catastrophe. Il faut peut-être que le jeu vidéo y réfléchisse.
D'ailleurs, si pendant longtemps le jeu vidéo est resté dans une expression assez violente, brute, au niveau de la violence, il y a aujourd'hui de plus en plus de jeux qui essayent de réfléchir la violence et qui essayent de faire sentir une certaine fragilité ou alors de montrer les conséquences de la violence. C'est le cas de deux jeux dont j'aimerais à présent parler et que je vous conseille fortement. qui sont assez connus. Alors, pour le premier, il s'agit de Dishonored, déshonoré dans la langue d'Alain Souchon, sorti en 2012 et développé par Bethesda Softworks, donc sorti sur à peu près tous les supports console et PC, et qui aujourd'hui est disponible à 10€ sur Steam. Et je vous conseille fortement de l'acheter, parce que c'est vraiment un grand jeu si votre ordi est capable de le faire tourner. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que déjà les premiers trailers le montraient comme un jeu quand même assez violent, c'est-à-dire que vous incarnez un garde du corps d'une impératrice déchue et vous devez reconquérir le trône politiquement avec sa fille après une trahison et après, et après à la fin du jeu il y a la reconstruction de l'Empire si vous y arrivez, enfin vous y arrivez, spoiler, mais... Mais ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a beaucoup montré la violence, mais c'est beaucoup plus intéressant, je pense, que la simple violence, parce que dans le jeu, il y a deux fins possibles. Il y a une fin chaotique et une fin paisible, une fin qui est plus paisible. Et ces deux fins vont dépendre de la manière de jouer du joueur. Si le joueur privilégie un style et des exécutions brutales, le régime à la fin du jeu, que le joueur va laisser derrière lui, le régime politique, sera autoritaire et la société sera beaucoup plus elle-même brutale. Si le joueur privilégie une approche furtive et des sentences plus raisonnées, le régime à la fin sera de lui-même plus raisonné et la société plus saine. Et le joueur est en fait à la fin invité à contempler les conséquences de ses actes. Je parlais d'un deuxième jeu qui, lui, est facilement un de mes jeux préférés de tous les temps, à tel point il est intelligent et bien fait. Il s'agit de Darkest Dungeon, publié en janvier 2016 sur Steam. Alors lui est un peu plus cher, il est à 23,99€, il me semble, mais si votre ordi peut le faire tourner, et si vous êtes amateur de RPG et de difficultés, parce que le jeu est extrêmement difficile et exigeant, et que vous avez beaucoup de temps devant vous, ça fait beaucoup de si, mais je vous invite vraiment à le tester, parce que c'est vraiment un très bon jeu avec une ambiance exceptionnelle. Et dans ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a un véritable sentiment d'accomplissement, en fait, quand on réussit quelque chose. Parce que à force de jouer à des jeux, ça devient facile d'y arriver. Là, on nous met vraiment face à la difficulté. Et du coup, ça remet en cause aussi la mortalité des personnages. Parce que les personnages, du coup, qu'on contrôle, on va dans des donjons avec des personnages, on affronte des créatures dans des combats au tour par tour. Et ben, dans ces jeux-là, dans ces combats-là, les personnages sont hyper fragiles, ils n'ont pas des points de vie, ils n'ont pas un nombre de points de vie monstrueux, il y a tout un système de stress qui peut les faire basculer et les rendre fous. Et du coup, il y a une certaine fragilité qui remet en perspective toute une histoire du jeu vidéo basée sur des personnages qui ne craignent pas la violence. Là, on voit bien que la violence, encore une fois, va avoir des conséquences, parce que quand un personnage meurt dans ce jeu, il meurt pour toujours. C'est-à-dire que toutes les améliorations que vous aurez mises sur ce personnage, au niveau de ses compétences ou de son équipement, vous les perdrez. Alors que vous les avez payées au prix du sang d'autres personnages et au prix de votre sueur de jeu. Et du coup, la modification de toutes ces règles de jeu auxquelles on est habitué depuis des années permet une mise en perspective de la violence dans le jeu.
Bien, on ne saurait que conseiller ces deux jeux et conseiller également ces deux films qui sont deux chefs-d'œuvre. Les aventuriers du pixel perdu, c'est déjà fini pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques.
Et jouez bien.